Sœurs et frères, un jeune prêtre m'a dit un jour ce que j'attends de mon évêque, c'est que vous nous montriez le chemin du ciel. Je vous avoue avoir été surpris par le côté spontané, direct, radical de son propos. Mais avec le recul et l'âge aidant, je crois qu'il avait raison. Moi, je lui parlais à cette époque de la mission au niveau d'une stratégie à développer, d'orientation à appliquer. Et lui ressentait la mission comme un appel à progresser dans la foi pour avancer vers le Dieu vivant, maître de la vie. D'ailleurs, c'est la demande de cet homme riche qui vient à la rencontre de Jésus : que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Que l'on pourrait traduire : que dois-je faire pour aller au ciel ? Il a tout sur la terre. Il ne manque de rien. Il pourrait s'en contenter, en profiter au maximum, mais non. Il y a un manque dans sa vie qui le conduit à Jésus. Comme beaucoup aujourd'hui, il a tout. Mais un vide existentiel s'est installé dans sa vie. C'est un chercheur. Et nous en connaissons de plus en plus aujourd'hui de ces chercheurs de Dieu, assoiffés d'infini, qu'ils soient recommençants à croire, catéchumènes et tant d'autres, qui viennent frapper aux portes de nos églises ou à celles des presbytères et qui nous questionnent eux aussi. Que dois-je faire ? C'est une belle mission. Et un devoir pour nous de les accueillir, de les accompagner, de les estimer. Un homme politique, bien connu de mon premier diocèse, demanda un jour à un ancien vicaire général du Lot : « Mon père, je me pose souvent la question. Et après ? C'est une interrogation universelle qui nous hante un peu tous. Et après ? C'est aussi la question de cet homme riche de l'Évangile. Et nous, ministres du Seigneur, prêtres, diacres, évêques, ordonné pour vous servir, nous sommes un peu comme Jésus. Nous nous efforçons d'apporter des réponses aux questions existentielles en prenant appui sur la parole de Dieu, comme Jésus le fait à partir des 10 commandements, des 10 paroles de Dieu. Mais vous l'avez entendu dans l'Évangile, toutes ces prescriptions, cet homme les connaît. Il pratique la loi. Il est un bon croyant. Il vit ses prescriptions, mais elles ne lui suffisent plus. Il veut plus. Il veut faire plus. Il veut la vie éternelle, rien que ça. Quelle est belle cette faim et cette soif de désirer plus pour se rapprocher de Dieu, car vouloir le ciel, ce n'est rien d'autre que vouloir Dieu. Nous en rencontrons aussi dans nos paroisses, nos aumôneries, des enfants et des jeunes, des adultes qui ont besoin de bien plus encore que ce que nous pouvons leur apporter ou que ce que la vie leur apporte. En les accompagnant, ils nous poussent à aller plus loin Ils nous font du bien et nous font avancer et progresser avec eux. Oui, ils désirent une plénitude de vie comme l'homme riche de l'Évangile. Mais nous ne pouvons pas l'acquérir par nous-mêmes. Elle ne peut que nous être donnée par celui qui en est la source. Alors, nous dit l'Évangile, Jésus se prend à l'aimer parce qu'il voit en lui de la bonté, ce désir de dépassement, un cœur ouvert, une demande sincère pour aller plus loin, pour avancer dans le sens de la vie, mais non pas la vie en tout petit, mais la vie en grand, la vie sans limite et sans fin. Marc, l'évangéliste, immortalise le temps de ce regard pour le rendre intemporel. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Sœurs et frères, il y a de quoi méditer, intérioriser ce moment, contempler la scène jusqu'à la voir de l'intérieur. Ce regard de Jésus est déjà une réponse à la question de cet homme. Il en dit plus que des mots. Dans les monastères, il existe une communication non verbale. Tout passe par le regard. Et l'on peut comprendre l'autre, savoir ce qu'il veut, rien qu'en le regardant. Jésus, en regardant cet homme, en plongeant son regard dans le sien, a tout compris. Combien a duré le temps du regard, on ne le sait pas. Mais Marc le prolonge au-delà des mots pour que nous prenions conscience que la vie éternelle est déjà présente dans les yeux de Jésus, lui, le Fils éternel du Père. Et c'est pour nous, ministres du Seigneur, ses serviteurs, serviteurs de lui et de son peuple, une belle mission. Chers frères et sœurs, non pas tourner vos regards vers nous, car nous passons dans votre vie, mais vers lui, qui est notre Sauveur et qui a les promesses de la vie éternelle. Nous sommes, nous, vos frères prêtres, diacres et évêques, comme des passeurs. Plonge ton regard dans les yeux du Christ qui te regarde. Fixe-le, ne le perds jamais de vue. Demeure unis à lui. Par le don de la parole, qui brille comme une lampe et éclaire ta route. Par le don de l'Eucharistie, pain de vie qui nourrit ton espérance. Par le don de la miséricorde et du pardon qui te remettra toujours debout après toutes tes chutes. Oui, sœurs et frères, la seule richesse que nous portons pour vous dans nos mains fragiles, dans nos mains de pécheurs, c'est de vous donner le Christ, comme il s'est donné lui-même à cet homme riche en l'accueillant, en le regardant et en l'aimant. Priez, oui, priez, afin que nous vous regardions avec les yeux de Jésus. Priez pour la conversion de notre regard de pasteur. Parce qu'un regard voit parfois ce que l'intelligence ne perçoit pas. Une chose te manque. Jésus ne lui propose pas de suivre un code de bonne conduite, mais il lui lance un appel. Viens, suis-moi. Appel comme suite de son regard, parce que chaque appel du Seigneur engage entre lui et nous une histoire d'amour pour l'éternité. Et Pierre, d'ailleurs, l'avait compris quand il répondra à Jésus : « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais voilà, cet homme n'est pas prêt à un tel détachement, à un tel dépouillement. Il veut tout tenir à la fois, et cela le rend triste. Tout quitter, c'est trop dur. Jésus ne le retient pas, il le laisse libre. Mais rien, rien ne sera perdu de ce qui a été vécu. Le temps d'un accueil, d'une parole, d'un regard, d'un appel, tout cela demeurera gravé dans la mémoire de son cœur. Tout ce que le Seigneur donne et fait vivre, c'est cadeau. Il n'attend pas de retour sur investissement. Cher Yannick, au moment où je te confie cette paroisse cathédrale, je te demande de la porter dans ton cœur. Comme Jésus, porte ton regard sur elle et aime-la. Tout le reste sera donné en plus. Aime-la. La mission d'un prêtre en général et d'un curé en particulier commence par un attachement amoureux au Christ, bien entendu, et par lui aux sœurs et frères dont tu deviens le pasteur. Fais corps avec ta paroisse et tes paroissiens comme le bon pasteur fidèle à son troupeau donne sa vie pour lui quoi qu'il arrive. Une paroisse ne fonctionne pas. Elle n'est pas d'abord une organisation, mais elle est une famille fraternelle qui célèbre le Christ, son centre, et que tu rassembleras autour de lui en veillant toujours à son unité. C'est toujours du Christ que l'Église repart pour apporter au monde la respiration et la joie de l'Évangile, en particulier aux plus fragiles et aux plus pauvres, aux malades, à tous les blessés de la vie. Mais fais attention. Ne te laisse pas enfermer dans les problèmes. N'aie pas la prétention de vouloir tous les régler, tu n'y arriveras pas. Donc, en voulant tout régler à la fois, on risque de ne plus voir que cela. Alors que, malgré les problèmes, le Seigneur t'invite à contempler ce qui va, son œuvre, ses merveilles, celles qu'il réalise parfois là où l'on ne s'y attend pas. Qu'avec la grâce de Dieu, l'enthousiasme de la mission l'emporte toujours sur les problèmes et le pessimisme qu'ils peuvent entraîner. Si le prêtre est un homme de la parole et aussi un homme de parole, il est surtout un homme d'écoute. Il écoute l'Esprit Saint qui lui parle par ce peuple dont il prend soin, et s'il a souci de l'instruire, il se laisse instruire par lui. Ainsi, tu seras émerveillé par tout ce que tu entendras de la bouche de personnes auxquelles peut-être tu n'aurais jamais pensé. Enfin, que ta prière soit ton oxygène. Plus tu sentiras le poids de la charge, plus il faudra rallonger le temps de la prière. Ce n'est jamais du temps perdu, mais du temps gagné pour la mission. Alors que Notre-Dame des Tables, accompagne de son magnificat ta joie de servir cette belle famille paroissiale qui t'accueille aujourd'hui comme son nouveau pasteur. Cette famille va apprendre à te connaître et, j'en suis sûr, à t'aimer. Amen. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous attendez tous, c'est que votre nouveau curé vous adresse la parole, ce qu'il va faire. Maintenant, je vous invite à vous asseoir quelques instants.
Monseigneur, il y a quelques mois, lorsque vous étiez venu faire une visite pastorale à la paroisse du littoral agatois, je vous avais conduit visiter un lieu un peu particulier pour un évêque, puisque c'était autour d'un ring de boxe, dans la salle d'entraînement qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Et lorsque vous êtes sorti de la salle, un des boxeurs m'a dit « Fais attention, à lui tu ne pourras jamais dire non ». Je ne vous ai pas dit non, parce que vous m'avez demandé de prendre la suite de mon frère et ami Michel Plagnol de cette cathédrale. Pour des raisons de santé, il a dû laisser sa charge. Alors permettez-moi déjà de vous dire merci, Monseigneur, pour votre confiance. J'espère que vous ne le regretterez pas. Et permettez-moi de dire d'abord un immense merci à Michel Plagnol, qui a été le curé de cette paroisse pendant de nombreuses années. Nous sommes à lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli, et je le découvre depuis un peu plus de 40 jours maintenant, au quotidien. Je le savais parce que nous sommes frères d'ordination et amis depuis si longtemps que Michel avait non seulement un cœur de pasteur, mais des dons exceptionnels d'organisation, un souci d'ouverture et de communion. Et je voudrais vraiment rendre grâce pour tout ce qu'il a accompli ici. Bien sûr, entouré d'une équipe de prêtres, il a su vraiment mobiliser au service de la mission et de beaucoup de fidèles laïcs très engagés dans cette paroisse. Donc je voudrais vraiment, Michel, exprimer ma gratitude. Je sais que tu as fait un effort pour venir ce soir, parce que tu étais un peu souffrant. Mais merci vraiment du fond du cœur. Lorsque nous avons été ordonnés ensemble ici même, lorsque nous sommes relevés après la prostration le 17 juin 1990 devant Mgr Beaufay, nous avions vaguement conscience de ce que nous devions abandonner lorsque on devient prêtre. Bien sûr, on renonce à fonder une famille, on renonce à faire carrière, on renonce à certaines choses. Et je ne mesurais pas que ce qui serait le plus difficile à quitter, ce sont les paroisses que l'on nous confie un jour et que nous devons un jour laisser pour prendre une nouvelle mission. Vous le savez, Monseigneur, vous êtes bien placé pour savoir qu'on ne choisit pas sa mission. Alors, permettez-moi d'abord, après avoir vraiment remercié Michel Plagnol, de dire un très grand merci à mes parents et à ma famille qui m'a toujours soutenu, accompagné. Je pense aussi à ceux de ma famille qui m'accompagnent du haut du ciel. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude avec ceux aussi qui sont ma famille, ce sont mes nombreux amis. J'ai beaucoup de défauts. Alors les paroissiens de Montpellier vont très vite s'en apercevoir. Mais je crois que j'ai une petite qualité, c'est que je suis fidèle à l'amitié. Alors je voudrais saluer mes amis qui m'accompagnent, certains depuis l'école, d'autres le collège, le scoutisme, et puis tous ceux qui m'ont rejoint sur le chemin de mon ministère depuis 34 ans dans les diverses paroisses et lieux qui m'ont été confiés. Je voudrais remercier ceux qui sont là, qui ont été mes paroissiens, à l'ODEV, ensuite à Castries, à Saint-Joseph de Castries, dans tous les villages de cette paroisse. Et puis bien sûr, pendant 17 ans, à la paroisse du littoral à Gatois, avec Agde, Marseillan et Vias. Je voudrais dire un merci particulier à ceux qui sont là, des amis qui ont fait le chemin d'assez loin, qui ne partagent pas forcément ma foi, mais que j'ai pu rencontrer au sein de mouvements culturels, sportifs, associatifs, et qui m'aident chaque jour à ne jamais oublier qu'on n'est pas prêtre uniquement pour ceux qui sont dans l'Église, qu'on doit témoigner de la bienveillance de Dieu pour ceux qui se croient un peu loin et qui sont si souvent très près du cœur du Christ. Alors permettez-moi d'abord de saluer mes frères prêtres, ceux qui partagent la mission avec moi dans cette paroisse, à vos côtés, le chanoine Yves Dumas, chancelier du diocèse. Je voudrais remercier le plus jeune prêtre ordonné qui fait partie de notre équipe, Jean-Louis Nguyen, Jean-Marie Paloukou, Laurent Grégoire, Ghislaine Daviré qui vient d'arriver du Burkina Faso. J'ai une pensée bien sûr pour le père Pierre Treillet, souffrant, et je voudrais saluer de manière particulière le chanoine Jacques Bétoulière. La première fois que je suis rentré dans cette cathédrale, Monseigneur, j'avais 14 ans, et je m'étais inscrit à la classe d'orgue qu'avait ouvert le chanoine de Bétoulière pour les apprentis organistes. J'avais vu ce grand orgue, je me suis dit, vraiment, ce serait peut-être le plus grand rêve de ma vie qu'un jour je sois organiste titulaire de cette cathédrale. Alors, je suis descendu un peu plus bas, mais merci en tout cas à tous ceux qui, grâce à la musique, nous aident à monter un peu vers le ciel. Je voudrais remercier tous les frères prêtres qui m'accompagnent aujourd'hui. Le chanoine Hervé Dussel, archiprêtre de Béziers. Nous sommes du même endroit, Pézenas, voilà, et nous avons grandi ensemble avec le scoutisme, et en particulier le père Jean-Claude Luc. Je voudrais remercier de sa présence Jean-Sébastien Strumiat, vicaire épiscopal à la formation. Je voudrais saluer l'abbé Similière Vacher de Corby de l'Institut du Christ Roi, le père Vincent Cavanac, notre voisin, curé Sainte-Thérèse, assomptionniste. De mon ancien secteur, je voudrais saluer Franck Condy, curé doyen de Florensac, avec David Cortès, curé de Pézenas, je dis les villages principaux, mais je sais que vous avez beaucoup de paroisses. L'abbé Raphaël Duchamp, qui est bien connu ici dans cette paroisse où il a été vicaire, et qui est maintenant curé de Clermont-l'Hérault et autres lieux. Je remercie Alain Noblet, diocèse de Nîmes, curé d'Aigues-Mortes, du Gros du Roi, d'être présent. Nous connaissons depuis le séminaire. Je voudrais remercier le père Emmanuel Cassadi, Sylvain Coudon, l'abbé Soubon, qui est aumônier militaire, qui vient d'arriver sur Montpellier, le père Vincent-Marie de Saint-Joseph, du couvent des Carmes, ainsi que le père Louis-Marie. Je voudrais remercier toutes les personnalités qui sont venues à titre divers, mais beaucoup par amitié, et toutes les personnalités engagées dans la vie publique. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Frédéric Poisseau, qui nous fait l'honneur, la gentillesse d'être présent. Monsieur le sénateur de l'Hérault, Hussein Bourgi. Monsieur le directeur de cabinet du maire de Montpellier, François Villette, représentant monsieur le maire. Je voudrais saluer madame la conseillère départementale, Marc-Christine, Fabre de Roussac. Et bien sûr, tous les autres maires présents. Alors, je salue madame le maire de Castries, chère Claudine. J'ai une pensée, bien sûr, pour ton prédécesseur, Gilbert Pastor. Je voudrais remercier madame le maire adjointe d'Agde, de Vescande, d'être là. Monsieur le maire de Marseillan, Yves Michel. Monsieur le maire de Vias, Jordan Dartier. Monsieur le maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol, nous connaissons depuis l'université. Monsieur le maire de Cerce, Didier Bresson, je voudrais remercier monsieur le maire de Pomerol, je voudrais remercier de sa présence Monsieur le maire de Saint-Thibéry, mon village, Jean Rouget. Deux maires particuliers, Monsieur le maire de Beaulieu, Arnaud Mollier, et Monsieur le maire de Restinquière. Peu de chemin parcouru, puisque lorsqu'il y a 30 ans, je suis arrivé dans ces paroisses, vous étiez l'un et l'autre, un au catéchisme, l'autre à l'aumônerie. Voilà. J'ai pas eu de prêtre pendant que j'étais dans ces paroisses, mais il y a eu quand même deux maires. Je voudrais également remercier Monsieur le maire de campagne, Jacques Gravejal, qui est bien connu dans le monde agricole, où il a exercé de grandes responsabilités à la présidence de la Chambre d'agriculture. Et je voudrais remercier aussi les élus, les adjoints qui sont avec eux aujourd'hui. Je voudrais vraiment rendre hommage au travail des élus. C'est un exemple pour nous, les prêtres. Vous êtes un exemple pour nous. Vous êtes un exemple d'engagement au service du bien commun. Vous êtes des hommes, des femmes de terrain. Et vous nous rappelez que être prêtre, c'est d'abord être des hommes de terrain. Je sais le travail que vous accomplissez. Ma maman a été longtemps au conseil municipal. Et je sais ce que ça représente comme sacrifice et d'effort au quotidien pour l'unité. Permettez-moi de saluer les professeurs représentants de l'université de Montpellier, la faculté de droit, où j'ai été jadis étudiant. Je voudrais saluer particulièrement le professeur Jacques Michaud, avec le professeur Michel Clapier, le professeur François Barlois. Permettez-moi de saluer Monsieur le consul honoraire de Pologne, qui nous fait l'honneur d'être présent, Monsieur le président de la Société archéologique de Montpellier, ainsi que Monsieur Philippe Sorel. Je voudrais remercier les représentants de l'enseignement catholique qui sont présents sur cette paroisse, Monsieur le directeur, Madame la directrice du Collège Saint-François-Régis. Je voudrais, permettez-moi de saluer le directeur du Collège Notre-Dame d'Agde, Wilfried, et l'ancienne directrice du lycée de la Merci, Isabelle Balbé, qui nous fait l'honneur d'être venue spécialement de Versailles, directrice de Ginette, une grande prépa de France. Permettez-moi de remercier de leur présence l'Ordre de Malte, très engagé sur Montpellier, les dames et les chevaliers du Saint-Sépulcre. Merci aux confréries, pardonnerai de citer en premier la confrérie du Saint-Christ d'Agde, qui est très nombreux ici aujourd'hui, ainsi que la confrérie des pénitents blancs, la confrérie des pénitents bleus de Montpellier, et confrérie Jacquère, particulièrement la fraternité Jacquère de Septimanie de Foncode. Vous comprendrez que je salue de manière particulière, vous êtes très nombreux, les membres de l'Hospitalité Saint-Roch, qui chaque année accompagnent à Lourdes les malades. J'ai la joie d'être l'aumônier de cette hospitalité. Merci de votre présence et surtout merci de l'exemple que vous donnez pour le service des malades. Je voudrais saluer également l'Association internationale Saint-Roch, Anne-Marie Costepriva, ainsi que l'œuvre d'Orient, les responsables du gîte Saint-Roch, de la Société Saint-Vincent de Paul du Secours catholique et tous ceux qui sont investis à la halte solidarité. Et c'est une grande grâce d'avoir cette halte dans notre paroisse pour nous rappeler le primat du cœur. Et permettez-moi de saluer aussi tous ceux qui sont investis dans des associations non confessionnelles, mais qui travaillent pour l'ouverture et un signe d'amour au sein de notre cité. Permettez-moi de saluer particulièrement Nicolas et la famille au grand cœur. Je suis certain que je vais oublier beaucoup de monde, mais je sais que vous êtes nombreux à être venus de mes anciennes paroisses. Ça me fait chaud au cœur. Merci à la paroisse qui m'accueille. Soyez patient avec moi. Soyez patient avec moi. Merci à Michel d'avoir bien préparé mon arrivée. Et merci pour tout ce que je vois de très beau ici dans cette paroisse, que ce soit au service de la liturgie, dans cette magnifique cathédrale. Alors merci particulier aux organistes, aux musiciens, à la maîtrise, des petits chanteurs qui vont maintenant interpréter le Tu es Petrus. Et à la fin de cette messe, il y aura un petit temps de convivialité. Je sais que vous devez aller très vite à la paroisse Sainte-Bernadette pour installer le curé de Sainte-Bernadette, Luc. Et peut-être oublier du monde, veuillez me pardonner. En tout cas, merci aux servants d'hôtel d'être toujours au service de la liturgie. C'est tellement beau de voir des jeunes qui s'engagent au service de l'autel. Alors, unissons maintenant notre prière au chant de Tu es Petrus, et puis nous prierons la Vierge Marie ensemble.